la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière émission de la saison qui est aussi le numéro fétiche de Popo 51, 51e émission qui va nous emmener aujourd'hui du côté de l'Est de l'Europe jusqu'en Russie. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Il fait chaud hein?
Ah il fait un peu chaud oui.
Mais t'as fait la petite coupe d'été qui va bien pour te rafraîchir la nuque, c'est bien. Valérie, toi aussi t'as rafraîchi les vêtements?
Oui, c'est ça.
C'est ça, t'es dans le thème.
Il y avait une consigne, je l'ai respectée.
C'est bien, mais la consigne, en fait, je l'avais donnée qu'à toi.
Ah, mais il me semblait l'avoir vue sur les réseaux sociaux.
Ben oui, mais ce matin, mais nos chers amis étaient déjà habillés.
Mais moi aussi, mais je suis repassée me changer exprès.
Très bien, ça. Salut, Héloïse.
Hello, tout le monde.
Ça va, Héloïse?
Ça va bien, oui, oui.
Du coup, je peux enlever ma chapka?
C'est ça,
merci.
Absolument. Bon, on va se rafraîchir en allant vers l'est de l'Europe.
Tout à fait.
Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai eu de très bons livres. Cette littérature continue à perdurer, hein, que ce soit il y a plusieurs décennies ou encore maintenant, c'est toujours de grands écrivains.
Oui, et ce qui est notable, c'est que c'est vraiment méconnu. En France, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont traduits. Ça commence un peu, mais c'est vrai que du coup, c'est une littérature intéressante, je trouve, parce qu'elle est assez méconnue encore en France, en tout cas.
À part les grands auteurs russes de l'époque, les classiques.
Oui, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Mais bon, même si c'est très bien, il n'y a pas que ça.
Exactement. Et on va vous faire découvrir un peu dans cette émission ces écrivains. Allez, Popo, non, parce qu'elle n'a qu'un seul livre. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Valérie, qu'est-ce que tu nous proposes?
Eh bien, écoute, tu étais en train de parler de vous rafraîchir. Moi, mon premier livre que j'ai lu ne va pas du tout vous rafraîchir, au contraire. Il va vous faire avoir chaud partout dans le corps. Voilà.
Très bien, pourquoi
mais
pas.
Mais ça annonce le sujet dès le départ, bien. Puisque ouais. Sur la couverture donc, du livre qui s'appelle « Les aventures de Minette Aksentievitch », on voit donc une jeune fille en train de fumer une cigarette et elle est un petit peu nue. Et il était écrit, c'est cru, très très sexuel, mais drôle, tellement drôle.
Très bien.
Comment vous dire moi, j'ai aussi une personne qui est mineure à côté de moi, donc je vais modérer mon propos et je vais utiliser le terme bisounours quand je vous lirai les passages à la place des mots qui sont écrits dans le recueil.
Ça va être très bien ça.
Oui, voilà, c'était très très bien. Donc l'histoire donc de Minette Aksentievitch. Minette, c'est son petit prénom. C'est une jeune fille de 28 ans qui aime le sexe. Et qui, quelqu'un qui aime les fraises, manger des fraises quand il a envie de manger des fraises, elle aime le sexe et quand elle a envie de faire de la sexualité, elle fait de la sexualité. Appelons un chat, donc évidemment... Elle
avec ou sans chantilly?
Avec chantilly.
D'accord.
Tout le temps.
Comme les
voilà.
Fraises,
par contre, elle ne
meilleur.
Supporte pas, elle teste toutes les chantilly du monde. Mmh. Dès qu'elle a envie d'une chantilly, elle teste la chantilly. Par contre, elle ne supporterait pas de partager sa fraise avec une autre femme. Ça la repousse, c'est une idée qu'elle ne peut pas concevoir.
D'accord.
Voilà. Par contre, Dieu sait si elle a testé toutes les chantilly.
Elle est libérée, mais pas au point...
Étrangement, c'est ça, ouais. Voilà.
C'est une femme libérée, mais du coup, ce n'est pas une prostituée.
Voilà, ah non, du tout, non, elle ne se fait pas payer. Non, si elle a envie, elle a envie. C'est-à-dire que si elle va faire le plein de sa voiture et que le pompiste lui plaît, elle va lui demander est-ce qu'il peut l'aider à mettre la gâchette de sa station
essence
dans
son réservoir. Je crois que tout le monde a compris.
Voilà. Mais c'est que ça du début jusqu'à la fin. Alors le livre donc.
Il se déroule à quelle période
C'est contemporain. D'ailleurs, je soupçonne donc l'auteur Vladan Matijevic, qui est né en 62, donc qui est jeune, qui
Matijevic.
Matijevic, tu crois que ça se dit?
Oui.
Matijević. Ouais, je sais pas trop parler de serbe.
Moi, je parle football, mais d'accord. C'est comme ça qu'on dit. Ouais.
D'accord. Bon, mais je ne savais pas. Pourtant, j'avais pas lu qu'il était footballeur. J'avais lu qu'il gérait le service éditorial d'un musée.
Non, mais il
n'est
pas footballeur.
Ah, c'est pas le même.
C'est qu'ils ont souvent des noms comme ça. Les
d'accord.
Footballeurs. Et quelle nationalité?
Serbe.
Serbe.
Ouais, ça se passe en Serbie et.
Moi, j'ai un serbe ou un croate, moi, tiens.
Tu es serbe ou tu es croate?
C'est ça.
Voilà. Et donc le voilà, c'est un jeune donc qui a écrit ça. Des fois, on a l'impression qu'il fait partie des amants de Minette Aksentievitch. Donc, on a l'impression, du coup, comme il se met un peu en scène, qu'elle existe vraiment. J'ai lu plusieurs critiques sur le livre où les gens disaient que c'était beaucoup identifié ben, soit aux hommes qui rencontraient Minette, soit c'était un peu attaché d'elle. Moi, il me manquait un peu cette humanité qu'elle a pas, en fait, qui faisait que je me suis pas du tout attachée à elle. C'est peut-être pour ça que j'ai pas pris mon pied en lisant le livre.
Ah.
Mais voilà, après, c'est fait de façon ancien livre érotique, c'est-à-dire que c'est des tout petits chapitres et qui vont présenter ce que fait Minette. Minetterie, Minette lance des œillades, la confiance, l'esprit entreprenant de Minette. Minette donne une leçon de franchise.
C'est un peu Martine, voilà. Serbo-croate.
Sauf que c'est
un peu notre émission aussi sur les livres qu'on n'aurait jamais lus, les romans romantiques, un peu à l'eau de rose, voilà. Mais version
Là, voilà, érotique. C'est-à-dire que ça décrit ce qu'elle va faire. Alors, j'allais dire, un chapitre sur deux va être cru. Là, j'en ai noté deux qui sont pratiquement d'affilée. Il y a un chapitre, c'est « Minette parle de sa bonté ». Et c'est une espèce de poésie prosée, c'est un peu étrange. Là, c'est un chapitre en trois paragraphes.
Si tu dis poésie, c'est strophe.
C'est des strophes, voilà. Donc ce sera trois strophes qui commencent par « Quand Minette veut amuser la galerie, elle parle de sa bonté ». Et ils expliquent un petit peu ce qu'elle fait. « Quand Minette veut amuser la galerie, elle raconte l'histoire de la guêpe qui est tombée dans la confiture et qu'elle a repêchée ». Et c'est, voilà, les trois strophes commencent comme ça. Ça, c'est mignonné. Et si après, donc, le chapitre d'après, ça va être le chapitre « Anéantissement ». Et c'est là où je vais dire le mot, j'ai dit quoi, crocodile à la
bisounours.
Place bisounours,
pardon. Ou crocodile, c'est bien aussi.
Bizarrement tourné.
Quand elle lui a empoigné le crocodile, elle a eu l'air un peu étonnée et déçue, comme si elle était une extraterrestre habituée à des crocodiles en forme de trident. Mais son hésitation n'a pas duré longtemps. Les assauts ont déplacé le lit et il ne peut plus prendre appui contre le mur avec ses pieds qui patine maintenant sur le matelas glissant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'enfonce pas en elle de toutes ses forces.
Il était où le crocodile là? T'as un peu loupé un crocodile au passage.
Non, j'en ai dit deux.
Ouais, mais t'en as loupé un à la fin là.
Ouais, voilà. C'est. Bah,
il ne crocodile en elle.
Ah oui. Oui, mais enfoncé, c'est pas un terme que le CSA peut nous reprocher.
Non.
Bon. Voilà, il pouvait.
Mais est-ce que c'est drôle du coup ou pas du tout?
Ça a l'air un peu mièvre.
Ouais, c'est. Il y a des moments qui te font sourire parce qu'elle est assez naïve aussi, puis elle met la pagaille dans des couples. C'est assez. Moi, c'est ça qui m'a le plus fait rire en fait, c'est de voir la naïveté de certains hommes, dont un imminent professeur qui va plaquer femme et enfant pour Minette, mais qui en plus ne promet jamais rien. Enfin, c'est. Donc oui, ça fait sourire.
Ça donne pas envie. Hein.
Mais ça fait voilà. Ça,
bah ouais. Enfin,
ça peut plaire à un certain public. Enfin, quelqu'un qui aurait envie de lire un truc un peu olé olé, mais.
C'est un roman d'été, remarque.
Oui, voilà, ça tu lis.
Voilà, pour un ménagère qui cherche un peu plus de.
Ménager, tu vois. Moi, je le ferais plus lire.
Ou ménager.
Ouais, ouais, ça serait plus. Je pense que ça tient Ludo.
Ça date
d'accord.
De quand? C'est
merci.
Récent là. C'est dans la
2013, je crois. Ding, 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 ding. Oui, je crois que c'est 2013. Ouais, alors, c'est son deuxième. Ouais, c'est son. Non, je te dis n'importe quoi. En fait, c'est 2007. Beaucoup plus vieux que ça. Et c'est son deuxième roman, donc à Vladan Matijević, c'est ça? Et son premier roman, c'était Le Bésespoir du jeune Arnold, qui a l'air à peu près du même acabit. Voilà. Et je ne dis pas à Kabit exprès, j'aurais pu dire à Crocodile.
C'est vrai.
Voilà. Bon, du coup, j'espère que ton deuxième livre t'a plus plu.
Ah, c'est très différent. Disons que s'il y a deux clichés sur les pays de l'Est qui seraient les filles un peu avec la jambe légère et la Shoah, bah, on est pas mal.
Eh bien, merci. Voilà. On va attendre avec impatience ce deuxième livre. Alors, je vais présenter moi un livre par rapport pour faire la transition un peu avec ce que vient de présenter Valérie, parce que moi, dans cette émission, je présente aussi des livres que j'aime pas. Ça arrive, hein, et je le dis d'ailleurs. Il y a des livres que j'aime, Il y a des livres aussi que j'aime beaucoup, je décide donc de les acheter pour les garder dans ma bibliothèque. Il y a ensuite des livres que j'aime encore plus et que je décide aussi d'acheter d'autres exemplaires pour les offrir à mes amis. Et le livre que je vais vous présenter fait partie de cette catégorie-là.
D'accord, j'ai cru que tu allais dire fait partie de ceux que j'aime pas.
Non, non, non. Il
donc,
s'agit...
à notre anniversaire, nous allons avoir...
Jésus et Tito de Velibor Kolić ou Kolić. Je ne sais pas si en fait,
Kolić,
ça se dit.
Je pense le C
se dit. Alors, c'est un excellent livre de cet auteur anciennement yougoslave, nouvellement croate, Velibor Kolić, qui vit en France depuis 1992, qui nous raconte son enfance dans l'ancienne Yougoslavie. Velibor a 6 ans en 1970 et veut devenir footballeur, noir et brésilien de préférence, comme son idole Pelé. Alors, c'est une enfance qui est tiraillée dans sa maison entre deux icônes, l'icône de sa mère qui est Jésus et celle de son père qui est le maréchal Tito, d'où le titre « Jésus et Tito ». C'est une enfance qui se passe quand même sous le signe de la bonne étoile rouge, mm-hmm. avec toute une flopée de personnages aussi drôles et originaux les uns que les autres, comme ses voisins, comme ses amis. Alors, ils ont tous des surnoms. Je crois que je les ai notés après, je sais plus. Donc, il y a Fido le mouton, Vlado le sauvage, il y a Pips, il y a le flic, etc., etc. C'est extrêmement drôle. Il se choisit des icônes, lui, résolument rock'n'roll. Donc, ça passe de ses 6 ans jusqu'à son service militaire. À peu près, donc on voit son évolution. Ces icônes qui sont Jack London, Pelé, les Clash, Bukowski, on les voit apparaître au fur et à mesure. On parlait dernièrement de Tendre Jeudi et de Rue de la Sardine de Steinbeck. Ben, en fait, ça m'a rappelé un peu ces personnages, des personnages hauts en couleur, une ambiance naïve mais belle, jolie, assez drôle, on a envie d'y être.
Ouais.
C'est surtout son enfance, on voit cette enfance qui est quand même dans ce pays qui est pauvre et au final, tout est beau, quoi. Il est entre amis, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est jouer au foot. J'ai d'ailleurs une citation de ce livre, il dit « Tu sais, avant la guerre, on n'avait rien, et puis les Allemands sont arrivés, ils ont tout détruit. » Voilà, c'est l'ambiance, et c'est extrêmement drôle, il y a beaucoup de phrases comme ça. L'auteur a parlé de ce livre en expliquant « Relativement tôt, je me suis rendu compte que mes souvenirs, mon enfance, toute ma vie d'avant appartenaient au Jurassic Park communiste, disparu avec l'idée de la Yougoslavie. » Donc il arrive à nous refaire vivre cette époque communiste dans les yeux d'un enfant qui travaille bien à l'école, mais qui préfère, comme tout gamin de son âge, jouer au foot. Cette Yougoslavie communiste où pop, prêtre et imam vivent côte à côte en bonne intelligence, les enfants sont modelés par la propagande communiste et le culte de la personnalité du maréchal. Alors il y a des passages extrêmement drôles où ils font des opérations à l'école, une brique pour le Vietnam, ils font des briques de NEM pour envoyer des sous aux communistes vietnamiens qui combattent. Donc ils ont pas d'argent, ils sont assez pauvres, mais c'est la guerre entre eux en disant mais moi j'amène deux briques quand même pour aider nos amis communistes à l'autre bout de la planète. Ils sont vraiment voilà, c'est le communisme à l'époque, hein. C'est la propagande dès le plus jeune âge, mais c'est vécu sous un angle assez drôle, il le raconte, ce qui n'empêchera pas, quand il grandit, voire à la fin du livre, de se retourner un peu contre cette propagande communiste, se rendre compte de tout ce qu'il a vécu auparavant, que ben voilà, on essayait quand même de l'embrigader. Il y a des concours de poésie en l'honneur de Tito, des pèlerinages annuels vers son village natal. Donc le livre se clôt en 85 sur la fin du service militaire du jeune Velibor. Et là encore, l'histoire rattrape la mémoire individuelle, car son expérience militaire décrite avec un humour décapant, toujours pareil et acide, laisse présager d'un sombre et fratricide futur où ils se rendent compte finalement que le communisme n'est pas autant idyllique qu'il puisse y paraître. Donc voilà, comme je viens de vous le dire. Mais ça reste quand même vraiment, vraiment tendre. Voilà, on voit ça dans les yeux d'un enfant où tout est beau, même si les temps sont difficiles. Alors, je vais vous lire justement des passages de bonheur simple et de raccourcis sécurisants qu'essaye de faire l'auteur tout au long de ce livre. Alors, le gamin a le cœur qui balance et des décisions graves à prendre. Les tartines au miel de... Donc ça, je vais vous citer. Il dit « Les tartines au miel de sa mère après le « Je vous salue Marie » ou le foulard rouge que l'on reçoit en devenant un pionnier de Tito. Il tranche la soupe aux haricots ou le marxisme, le chocolat aux noisettes ou le socialisme. Dur, très dur de choisir. Et parfois j'hésite. Le monde des idées est très compliqué, mais grâce à mon oncle, j'y vois un peu mieux. Quand on mange bien, c'est du catholicisme. Et si on n'a rien à manger, mais qu'on chante et danse, c'est du communisme. » Voilà, quand il est tiraillé entre Jésus et Tito, il dit « Si c'était au moins un joueur de foot, Jésus ?» Il pourrait choisir. Qu'est-ce qu'il nous dit encore ? La guerre froide est une chose très compliquée, tandis que la Deuxième Guerre mondiale était simple comme bonjour. On avait l'étoile soviétique, la croix gammée allemande, le drapeau rayé américain et le cercle rouge japonais. Mais ici, c'est difficile de savoir. Le même avion, le même MiG-21 avec la même étoile rouge gravée sur les ailes, sauf qu'une fois elle est bulgare et puis qu'ensuite c'est la nôtre. Voilà, il parle de l'histoire au fur et à mesure, c'est ça qui est vraiment beau. Il finit en disant, il dit au début du livre, mes personnages préférés sont le maréchal Tito, Tarzan, Pelé, Cro-Blanc et Karl Marx, et dans cet ordre-là, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde parce que c'est d'une beauté, on se rend compte de la situation de l'époque, dite avec humour, avec des personnages vraiment fabuleux. Il parle de son voisin le flic, il dit, mais de toute façon c'est son destin d'être flic, il restera toujours jusqu'au jour où il se fait lourder par la police parce qu'il bat sa femme. Et il continue à l'appeler le flic quand même, il dit, de toute façon c'est son destin. Voilà, il a des pigeons, il découvre une carabine à plomb où il essaie de tirer sur les pigeons, il arrive en tuer un et là, il n'arrive pas à dormir parce qu'il revoit le pigeon qui... C'est très très tendre, c'est très très beau, c'est la vie d'un gamin, c'est vraiment fortement à conseiller. Je vais venir te voir, Héloïse, pour avoir plus de livres de cet auteur.
Très bien. Mais du coup, on n'a pas besoin de références forcément, de connaître l'histoire.
Pas du tout.
On apprend en fait, mais on n'a pas besoin d'avoir certaines références, quoi.
C'est ça. C'est ça, et en plus, voilà, on voit cette jeunesse avec pas énormément d'argent, bien que lui, son père était juge, donc c'était pas un des enfants qui avait le moins d'argent, mais on voit cette jeunesse donc où se côtoient toutes les religions, où il n'y a aucun problème. Son professeur vient d'un autre pays, mais il reste quand même bien ancré dans la propagande communiste, où il essaye d'apprendre ça à ses enfants, mais qui, eux, le vivent bien. Ils sont contents de réciter ou d'écrire des poèmes à la gloire de Tito. C'est leur héros. Un jour, il le voit passer en train, mais il passe qu'en train. Donc, en fait, il voit que le train passer. Un autre jour, il visite le palais Tito. Il se dit, mais il y a quand même de l'argent, Tito. Hein, il pourrait penser à nous. Donc, il se rend compte, c'est très, très beau. Et donc, on voit ce pays où ils sont dans la misère, où il y a cette propagande, mais où finalement, ils sont heureux parce que, voilà, c'est des gamins qui veulent jouer au foot, qui s'aiment entre eux. Voilà, ouais, ils parlent de l'Albanais du coin qui est une épicerie. Donc, on est vraiment dans cette Croatie, donc Yougoslavie à l'époque, milieu rural, mais très, très beau et très, très drôle.
Super. Et c'est aux éditions Gaïa, c'est ça ?
C'est aux éditions Gaïa. Je ne l'ai pas ramené vu que je veux le garder. Mais il me semble, ouais.
Ouais.
Allez, Louise, à toi.
Alors, moi, je vais vous parler d'un livre tchèque. Donc, il s'appelle « On a tous chaud ici ».
Ça te fait rire, un livre tchèque ?
Ah oui, grave.
Ouais. C'est tchèque.
C'est le tchèque. Ah ouais, tchèque.
Ouais. Donc c'est un classique de la littérature tchèque, donc il s'appelle Le brave soldat Čvejík. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais là-bas c'est le livre à lire. Le personnage du brave soldat, il est partout dans les rues de Prague. Il a vraiment, je ne sais pas avec qui on pourrait comparer en France un personnage de littérature. Voilà, peut-être le Petit Prince ou dans un style plus poétique effectivement, parce que là le brave soldat c'est un peu un benêt. Voilà. Et donc, c'est un livre de Jaroslav Hašek. Donc, pour commencer, je vais devoir vous contextualiser un petit peu la période et l'ambiance durant laquelle se déroule le roman. En fait, c'est juste avant et pendant la déclaration de le début de la Première Guerre mondiale. Donc, on est en 1914. Donc, est-ce que vous avez une idée de d'où se situait où se situait la République tchèque pendant la Première Guerre mondiale ? De quel
dans
côté
quel
elle était, de voilà ce qu'elle a fait.
Première guerre mondiale.
Elle était pas avec les Italiens
non. Italiens.
Ouais.
Première guerre mondiale, je suis pas sûr que les Italiens aient beaucoup participé à la guerre, mais.
Bah, un petit peu quand même.
Un petit peu, mais bon.
Sur le départ, il était juste à côté de chez
Tchèque, première guerre mondiale.
C'est quoi, c'est François Ferdinand, là, le.
Oui, ouais, c'est lui qui se fait assassiner.
Ouais. C'est ça l'élément.
Il se fait assassiner par qui, et du coup.
Mais il était avec la France alors. Ils étaient avec la France.
Alors non, parce que la République tchèque... Ah non, mais il n'y a pas de piège, mais en fait, moi, j'ai découvert avec
seuls.
Ce livre, en fait, je ne savais pas du tout où est-ce qu'ils en étaient, où est-ce qu'ils en étaient, etc.
Ils étaient avec le Zanzibar.
Donc oui, la République tchèque ne s'appelle même pas comme ça à l'époque, parce qu'elle fait partie depuis des décennies de l'Empire austro-hongrois, et donc de l'Alliance Allemagne, Hongrie et Autriche. Et donc c'était un empire assez strict. Et donc la langue tchèque, la culture tchèque a vraiment été germanisée pendant des décennies et des décennies. Et là, en fait, l'action se passe au moment où les Tchèques ont commencé à avoir des sursauts de fierté, où il y a eu de plus en plus d'actes révolutionnaires afin de s'affirmer comme une nation à part entière, en fait, d'affirmer leur culture. C'est à cette époque-là qu'on a supprimé certaines choses de la langue tchèque, voilà, les germanisations notamment, ils ont récupéré leur langue. Donc il faudra attendre en fait la fin de la Première Guerre mondiale, donc ils se sont quand même battus aux côtés de l'Allemagne, pour que la République tchèque retrouve un semblant d'indépendance au sein de la nouvelle Tchécoslovaquie, qui va être créée donc en 1918, une fois que l'Empire austro-hongrois était affaibli par la Première Guerre mondiale. Donc, après ce petit cours d'histoire...
Alors, je tiens à préciser que le micro ne grésille pas, c'est Valérie qui mange du pain.
Pardon.
Ce n'est pas grave, Valérie.
Donc, on retrouve notre héros, le brave soldat Tchévik. Dans ce contexte-là, Louis Ferdinand vient juste d'être assassiné, et c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc, le brave soldat est un personnage naïf au plus haut point. Il est balourd, il est incompétent, il a été réformé de l'armée pour idiotie. Donc au début du roman, il va qu'à ses occupations, il fait en fait de la contrebande de chiens, il récupère des chiens, des bâtards dans la rue, et il les revend en les faisant passer pour des chiens de race à des riches allemands, justement, qui n'y connaissent rien. Du coup, là, au début, donc il fait ça, il se rend dans une brasserie, il y a beaucoup de bière dans ce livre. Donc il converse avec le patron, alors que Ferdinand vient d'être assassiné. À côté d'eux, il y a un policier zélé justement de l'Empire austro-hongrois qui les écoute et qui note tout ce qu'ils disent. Et lorsque le patron affirme avoir déplacé son portrait de Louis Ferdinand, donc de l'empereur, au grenier parce que les mouches chiaient dessus, et ben le brave soldat et le patron sont arrêtés pour haute trahison de l'Empire. Et
oulala.
Donc là, c'est le début de toutes les pérégrinations de notre héros à travers tous les rouages, mais absolument incompréhensibles, de l'administration et les prisons de Prague. Et donc avec cette naïveté et son honnêteté sans faille, et surtout son enthousiasme militaire totalement exagéré, il met dans l'embarras en fait toutes les personnes auxquelles il a affaire, et à chaque fois il se met dans le pétrin aussi. Il est tellement honnête, tellement naïf que voilà, il rencontre un médecin, un policier, un gendarme, les prisonniers, à chaque fois tu peux être sûr qu'il va se mettre dans le pétrin et du coup qu'il va y avoir de nouvelles aventures. Donc c'est une série en fait de courts chapitres où à chaque fois il change de lieu tout en il est perdu en fait dans cette espèce d'administration d'engrenage, et c'est très très drôle. Donc c'est un excellent roman satirique qui dénonce en fait l'absurdité totale de la guerre à travers ce personnage qui est patriote mais totalement idiot. Donc j'ai adoré, il est très attachant, il est souvent aussi très désespérant. Donc comme je l'ai dit, c'est un personnage extrêmement populaire là-bas, c'est vraiment une figure de proue. Donc je l'ai lu très vite parce que le rythme est soutenu, on a envie de savoir vers où la naïveté de notre héros va le mener finalement. Et donc au niveau historique, ça m'a aussi forcée à me renseigner un peu et à m'intéresser à cette période, encore une fois, assez méconnue. Enfin, pour tous ces pays-là qui étaient un peu dans un entre-deux, parce qu'ils expliquent que la plupart des gens, en fait, n'avaient pas envie de se battre, en fait, pour l'Allemagne. Ils se sentaient tellement loin de tout ça. Et finalement, ils ont été obligés. Et donc, voilà, c'est entre Don Quichotte, Candide, avec une pointe d'esprit à la frère Cohen en avance. Et c'est un classique qui mériterait toute votre attention parce que c'est très drôle et c'est facile à lire en plus. Voilà.
Super, Héloïse. Tu nous rappelles, c'est Folio, toi, par contre.
Alors oui, c'est un classique. Du coup, c'est édité chez Folio. Ça s'appelle Le brave soldat Tchévik de Jaroslav Hašek.
Qu'est-ce qu'il y a, Popo ?
T'as dit c'est chez Folio, par contre.
Très bien remarqué, cher Popo. Alors, quelle heure il est ? Midi 55. On va faire patienter sur la chronique de cette émission présentée par Popo. On va écouter une pause, on va vous faire saliver une petite chanson. Je n'ai pas compris le rapport de cette chanson, d'ailleurs.
Non,
si ce n'est que tu l'aimes bien, j'imagine.
Il n'y a pas de rapport, et c'est vrai que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, et je trouve ça assez sympa, même si je n'aime pas du tout la chanson française, là, ça m'a bien plu.
Allez.
C'est Passade Digitale de Marie-Flore.
Et ça arrive, parce que j'ai un problème au niveau de ma table de mixage.
Ça a l'air d'être bon, là.
Là, c'est bon. Là.
Cool.
Thank you. tu dises. Promis, on se fait pas de mal, promis, je monte la garde. Pourtant, c'est l'escalade, les sentiers en zigzag. T'étais qu'une passette digitale et j'en retiendrai que dalle, je sais. Et si jamais mon cœur cale, on parle à cancale, s'il te plaît. Je vois.
Vas-y, Popo, lis-nous ta chronique.
Ok, j'y vais.
Allez.
Alors, moi, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Nous étions cinq. Et c'est de Karel Poláček, Poláček, je ne sais pas trop comment le prononcer, moi non plus. Donc, Karel Poláček, il est né en 1892. Bon, il est célèbre en République tchèque parce qu'il a écrit des romans humoristiques, il a écrit une grande pentalogie qui s'appelle Un chef-lieu de province.
Et donc, c'est quoi une pentalogie ?
Cinq okay, tomes. Merci. Je vais recopier le mot, je ne l'aurais pas dit moi-même.
Les maths et Louise. Pentagone.
Et voilà, donc il a écrit notamment ce roman qui s'appelle Nous étions cinq. Alors, moi aussi, je vais vous parler du contexte de l'écriture de ce roman parce que c'est hyper important. Donc d'habitude, je lis jamais les préfaces des romans, les avant-propos, je les lis plutôt après parce que j'ai peur que ça me gâche le plaisir. Et là, ils n'ont pas écrit préface ni avant-propos, ils ont écrit une ode à la vie conçue dans l'antichambre de la mort. Et je me suis dit, bon, je vais le lire, je vais me préparer.
Là, tu t'es dit, c'est parfait pour moi.
Voilà. Et donc, effectivement, là, on nous parle de la vie de Karel Poláček. Donc, il est tchèque. Il est d'origine juive et donc en 38, on a l'annexion des Sudètes, arrive 39 où là, il apprend qu'on l'appelle officiellement sale juif, sa vie commence à changer, que voilà, le Troisième Reich a ça comme mot officiel dans sa terminologie. Et il est à l'époque journaliste pour un journal de Prague. Et il se fait licencier pour commencer, puis il se fait interdire de publication. malgré tout, il a un ami qui, en 41, va signer pour lui un roman qu'il a écrit pour qu'il puisse se faire publier. Donc, c'est assez incroyable. Et puis, bah, l'étoile de David, toutes les interdictions qui touchent les Juifs. Enfin bon, voilà, tout ce que les Juifs vivent à l'époque. Et jusqu'à ce qu'il puisse se cacher au siège de la communauté juive de Prague. Et donc là, caché, il va écrire ce livre, Nous étions cinq. Donc c'est une période qui est extrêmement noire, qui est extrêmement terrible. Et lui, il écrit ce roman. Le roman, c'est un éloge.
Ah, je dirais une, moi.
Ah ben.
Je me prononce pas comme ça fait 50-50, ça met le bordel.
Donc, de l'enfance.
Ça fait pas 50-50.
Je dirais un éloge.
Donc, ça fait 75-25. Très voilà. Bien, continue, okay. Popo.
Un éloge joyeux. Un éloge hyper joyeux, hyper innocent, hyper plein d'humour de l'enfance. Donc, on a un narrateur, c'est Pierre Bajza. Donc, c'est un petit garçon qui a une dizaine d'années. Son père est épicier. Alors, on fait le lien avec, en fait, le père de l'auteur qui était lui aussi épicier. On imagine qu'il raconte un peu sa vie, qu'il se souvient de sa propre vie. Et donc, qui avec ses quatre copains, vit une vie d'enfant. Tout simplement. Donc c'est une vie, la vie d'une bande de copains qui font des bêtises, qui vont au cirque. Enfin, il y a pas d'événement particulier dans le récit. Il y a pas de fil conducteur. Il y a pas, on cherche pas à savoir la fin, ce qui va se passer. Non, c'est juste, il raconte la vie d'une bande de copains et c'est raconté avec un ton qui est extrêmement enfantin, mais pas niais, mais vraiment, on a l'impression qu'il a noté le texte qui a été raconté par un enfant. C'est adorable, comme tout. C'est vraiment mignon, avec les fautes de mots que les enfants vont faire, alors qui sont un peu durs à rendre à l'écrit, et puis en plus qui ont été traduites. Donc bon. Mais par exemple, on va avoir le thermomètre qui est thermo, plus loin, le maître comme le maître d'école. Des petites choses qui sont parfois rigolotes. C'est mignon. Et puis il y a quand même deux passages où on se dit on oublie du coup complètement ce qu'on a lu au départ, le contexte. Et puis il y a deux moments où on se dit parce que ça, c'est un roman qui se passe début 1900, donc vraiment hors Seconde Guerre mondiale. Et il fait deux allusions en fait à ce qu'il est en train de vivre, deux toutes petites allusions. Mais qui nous remettent un peu dans le bain, dans le bain entre guillemets, quelqu'un qui fait une remarque à une autre personne et qui lui dit « ne vous agitez pas comme un juif dans une poêle ». Ou un autre passage où un personnage se fait traiter de sale nazi, ce qui n'est pas du tout, à l'époque, ça colle pas, quoi. Donc finalement, je pense que si j'avais pas eu le contexte, je me serais peut-être un peu... ennuyé, j'aurais trouvé ça mignon, touchant, mais finalement le contexte de l'imaginer, parce qu'au début on a aussi le témoignage d'une femme qui était avec lui à la période où il l'a écrit, qui disait il était sur sa table avec sa petite nappe, avec sa bougie, et puis il écrivait, et là on se dit, on imagine ce qui fait qu'il a écrit ça, et comme ça a dû lui faire du bien, comme ça a dû lui changer les idées, ça a été le moment où il s'est rappelé de son enfance. Et finalement, ça touche. Et on trouve ça encore plus mignon, je crois, même si, ça aurait été mignon en dehors de ça. Enfin, touchant et joyeux et humoristique. Et là, on se dit, il est dans cette période où d'horreur. Et il arrive à écrire ce texte tout plein d'innocence, très touchant. Et du coup, ça a été une lecture, une bonne lecture, mais portée vraiment par son contexte, je pense. Qu'ils ont bien fait de présenter au début du roman.
Et il a survécu, du coup ?
Non. En 44, il est envoyé à Auschwitz avec sa femme. Sa femme se fait est envoyée dans une chambre à gaz immédiatement. Et lui va survivre jusqu'en janvier 45, où il va périr sur une marche de la mort. Donc, ce roman, en fait, il a été écrit donc pendant la guerre et caché par des amis à Prague et publié en 46. Mmh. Donc, en plus, c'est quelque chose qui a survécu à une période.
Mais c'est son dernier écrit,
ouais,
finalement.
Ouais. Donc, voilà, touchant et puis, un roman pour moi encore.
Merci. aussi. C'était donc la dernière chronique de l'année de Pauline. On te remercie pour cette année de joie et de bonheur. Que dire de plus ? Ben rien.
Vive la vie.
Je suis désolée.
Vive la vie, c'est ça.
Non, c'est moi.
Et Louise, j'avais une question. Ça revient souvent, ces thèmes de la, j'imagine, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale dans cette littérature d'Europe de l'Est.
Oui. Mais après, ce qui
beaucoup plus, j'ai l'impression que nous, alors qu'on a vécu aussi la guerre, et j'ai l'impression que c'est.
Après, des romans français sur la guerre, il y en a pas mal non plus. Hein. Mm-hmm. Ça se vend beaucoup. Il y en a pas mal. Mais là, c'est vrai qu'en fonction des pays. Que ce soit République tchèque ou alors Russie, ou alors tu auras des centaines de points de vue différents en fait sur ce moment-là.
D'accord.
Sur ces moments-là, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale, chaque pays l'a vécu assez différemment. Par exemple, en République tchèque, c'est la plus ancienne communauté juive qui était là-bas à Prague. Donc voilà, ils ont vécu ça d'une autre manière que puis, voilà, c'est
là je réalise parce que je voyais que dans la biographie de l'auteur qu'il avait participé en tant que soldat à la Première Guerre mondiale et vu ce que tu as dit finalement j'ai réalisé qu'il avait participé aux côtés de l'Allemagne en plus. Mais j'imagine
oui. Alors qu'il n'en avait peut-être pas envie parce
voilà
que,
et après oui. Derrière il subit le enfin c'est ahurissant.
Ah, c'est fou ouais. c'est plein de changements et jusqu'à peu de temps, hein. L'Europe de l'Est, c'est vrai que c'est toujours en mouvement pour l'instant. Il se cherche encore sur certains points.
Mmh. Exactement. Allez, merci Popo. mais tiens, je vais présenter mon deuxième livre parce que ça a un rapport avec la guerre. Et c'est assez court, comme ça je vais aller assez vite. Je vais commencer avec une petite devinette sur ce livre d'Olivier. Bon, bien sûr, si tu l'as lu, tu n'as pas le droit de jouer, Héloïse. Olivier Rouet. Son livre s'intitule « Chez Babel, ma dernière création est un piège à top ». Donc la petite devinette, ce livre d'Olivier Rouet nous parle de l'homme le plus décoré de Russie. Il a été décoré grâce à une invention. Quelle est-elle ?
Le piège à top ?
Tu crois que c'est l'homme le plus décoré de Russie parce qu'il a inventé un piège
pas,
à top ?
C'est vachement important.
Non, certainement
la
pas.
La chambre, un truc d'extermination pour...
Rapport avec les goulags ?
Oui, peut-être, voilà.
Non,
peut-être des camps de concentration, tout simplement.
Non, c'est un russe. C'est l'homme le plus décoré de Russie.
Oh, ça va être un truc de vodka, un plus gros buveur de... Une machine à pouvoir ouvrir les bouteilles de vodka sans les mains, quand t'es bourré.
Non, Héloïse, elle le sait, donc elle n'en parle pas.
Moi, je sais, oui, je l'ai
vu. Non. Alors, vous ne trouvez pas l'invention qui a changé...
Le symbole de la Russie.
Symbole de la Russie.
Admiré par tout un tas de jeunes à travers le monde...
Bon, allez, vous ne savez pas.
Je remets ma chapka et je.
Voilà.
Je fais toute petite.
Alors, ce livre parle de Mikhail Kalachnikov, qui est donc l'homme le plus décoré de Russie.
Ouais, je suis trop pacifiste pour.
Eh oui, décédé en décembre 2013 et célébré, cet inventeur insatiable a fait basculer le siècle avec une arme éponyme qui s'appelle l'AK-47. Pourquoi
c'est
47
la même chose.
Eh oui.
Tu vois déjà, moi, je débarque complet.
Alors, pourquoi 47 ? Parce que c'est l'année de création de cette arme. C'est toujours les armes, le chiffre d'après, c'est l'année de création. J'ai appris ça en lisant ce livre. Donc cette arme qui est arrivée dans les mains des soldats russes, puis dans celle des adeptes de la révolution communiste à travers le monde, jusqu'aux gangs de Los Angeles, en passant par les guerriers roses cubains, les enfants soldats en Afrique, les talibans en Afghanistan. En 2011, 100 millions d'AK-47, copies et contrefaçons incluses, sont disponibles dans le monde. Donc, dans cet ouvrage, en fait, se croise le récit biographique de l'inventeur et celui de la carrière de son arme. Alors, ce livre commence quand, comment il s'appelle, Mikhail est petit. Il est issu d'une famille de fermiers et donc il est expulsé lors de la révolution russe en Sibérie, car à cette époque, on n'aime pas trop les propriétaires fermiers. C'est pas très bien vu. Donc, dans le nord-est de cette grande Russie, il s'ennuie, n'a qu'un passe-temps, regarder les mécaniques des machines à traire. Jusqu'à ce qu'il décide une première fois de revenir dans son village natal qu'il ne reconnaît plus, bien entendu. Puis une deuxième fois en falsifiant des papiers jusqu'à son incorporation dans l'armée. Entre-temps, il a eu en main un pistolet automatique qu'il s'amusait à démonter et à remonter. Et en fait, tout bascule lors de la guerre. Il est excédé par le fait que les armes russes étaient si peu fiables au contraire des armes allemandes qui faisaient des dégâts considérables dans l'armée russe. Lui-même d'ailleurs fut blessé lors de la guerre. Donc dans ce livre, ça mélange son histoire de petit paysan à soldat
jusqu'à un homme qui est décoré au Kremlin, à des passages historiques sur les peuples qui ont utilisé l'arme durant le siècle, à des faits divers de tueurs qui ont également utilisé cette arme. Donc voilà, on parle de l'auteur et tout d'un coup, bim, on fait un petit paragraphe sur cette arme, ou avec des faits divers, ou avec l'histoire. On revient sur la vie de l'auteur qui grandit. Et voilà, on fait des parallèles donc jusqu'à la fin. Et finalement, on arrive à la fin où l'auteur nous explique que cette arme communiste qui est créée à la base pour lutter contre le capitalisme, donc 47, début de la guerre froide, pour aider les peuples communistes à pas tomber dans le capitalisme, à se révolter, finalement, mais ce symbole brandi par l'exploité contre le capitaliste, par l'opprimé contre le colonisateur, et c'est devenu au moins d'un siècle l'un des biens de consommation les plus courants dans le monde capitaliste globalisé. On arrive à l'effet inverse, une ambiguïté qui suit l'histoire de son créateur. Donc finalement aussi, parce que c'est un fils de Kulak, donc qui a réussi à s'échapper d'un camp de Sibérie, qui est devenu le symbole d'un régime dont il est exclu au départ. Toute l'ambiguïté entre sa création et lui qui était bien dans sa ferme avec ses parents, famille de 8 enfants, propriétaire forestier, ça peut pas exister dans le monde communiste. On part en Sibérie pour traire des vaches et compagnie. Et au final, on crée cette arme qui va devenir elle-même le symbole du capitalisme,
de la mondialisation, parce que
de la mondialisation
du
globale et du libéralisme.
Bien joué, Mireille. Ouais.
Bien joué.
Après, oui, c'est vrai que Valérie, je te vois lever les yeux au ciel et tout. Ah,
mais
j'ai
la phobie des armes à feu,
anti-violence. Mais c'est vrai que c'est un personnage très intéressant. Parce que tu te dis, voilà, il a créé ça, ça l'a totalement dépassé, quoi. C'est quelque chose. Il habitait sur ses vieux jours en Sibérie, à côté d'un petit lac, etc. Il y avait des gens quasiment deux fois par semaine qui venaient de n'importe quel coin du monde, qui l'admiraient, qui venaient taper à sa porte.
Un demi-dieu.
C'est vous, le créateur de la Kalachnikov. Je pense qu'il était tellement dépassé par tout ça que.
Alors, je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas donner la date exacte parce que je m'en souviens plus, mais je pense que c'est dans les années 2010. Le Kremlin a décidé d'arrêter toutes les entreprises de fabrication de la K-47 en se disant bon, mais maintenant c'est terminé, c'est désuète. Et tous les militaires qui habitaient du moins, parce qu'il vient juste de mourir, à côté de Kalachnikov, lui ont jamais dit, parce que ça aurait été la fin de sa vie, de se rendre compte que non, ça y est, l'arme qu'il a inventée... que la Russie décide elle-même. Alors c'est assez drôle, parce que donc il avait falsifié des papiers pour pouvoir se balader en Russie, revenir dans son village natal. Et quand il arrive au Kremlin pour se faire décorer, il se dit, avec tous ses officiers, tous les plus hauts gradés, il dit, c'est peut-être le moment de le dire. On le voit, et il dit non, finalement, il prend des photos, il est heureux. Ouais. Voilà, et il avait un héros, c'était Staline. Quand Staline meurt, il pleure à chaudes larmes. Ouais. Il se demande qu'est-ce qui va advenir, il n'y a plus Staline, donc c'est pareil. C'est un petit livre qui fait exactement 67 pages, donc c'est assez court et c'est vraiment à lire. Il a été écrit, c'est aux éditions Incultes. C'est l'adaptation de la pièce radiophonique AK-47 que l'auteur a réalisée pour France Culture. Voilà, c'était une commande d'une pièce radiophonique. Il a décidé de en faire un livre, enfin une nouvelle. Moi, j'aime bien les biographies, donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
C'est vrai que c'est très intéressant, c'est révoltant, mais en même temps, ça peut être un savoir supplémentaire.
Voilà, c'est l'histoire du monde. De cette création qui au final s'est retournée contre la Russie. Il explique que c'était donné à tous les peuples qui luttaient contre le capitalisme pendant la guerre froide. Et quand les talibans à qui ils avaient donné ces armes, quand les talibans en Afghanistan avaient donné ces armes bien avant qu'eux-mêmes se révoltent contre l'Empire russe, ils se sont rendus compte que c'est cette guerre Afghanistan-Russie qui avait... changer les contours de la Russie actuelle qui a vu la Russie se démembrer. Ça a été un point de l'histoire, un départ pour le démembrement de la Russie. Il s'est dit c'est à cause des armes qu'on avait créées justement pour nous aider. Ah oui, les armes, ça, tout le monde les prend, ça tombe dans toute escarcelle, c'est comme ça. Extrêmement intéressant à conseiller. En parlant de livres extrêmement intéressants à conseiller, je vais donner la parole à Héloïse.
C'est sûr.
Est-ce qu'on finit par
le
peuple juif assassiné?
Allez, vas-y, Valérie.
Alors, c'est hyper délicat parce que je pense qu'autant je fais souvent l'andouille tous les 15 jours quand il y a les émissions de radio et et même sur des titres des
c'est
fois.
C'est Popo qui fait des blagues en présentant ses livres.
Tout le temps. Et bien justement, là, je pense que j'avais un livre digne de Pauline, mais
Exposant ça, enfin, je sais pas si on dit comme ça en maths, parce que je suis pas très douée, mais
je ne sais pas, je crois que personne n'est doué ici.
Ouais,
en maths.
Je pense, voilà. Donc,
sinon, on ferait une émission sur les mathématiques.
C'est vrai. Voilà. Mais c'est voilà, c'est un bon. Déjà, il y a plusieurs choses. C'est un tout petit livre et c'est une poésie. En fait, c'est un livre poésie. Donc déjà, c'est pas forcément trop ma tasse de thé. Le dernier que j'ai lu, c'était Kirkjur Beilar Skrostruf. Fallait quand même que je le ressorte. Poésie islandaise. Là, donc le titre, ouais, c'est Le chant du peuple juif assassiné. Je vais vous parler un peu de l'auteur avant. Alors celui qui ne pleure pas mérite de se tailler la langue en léchant une enveloppe. Tellement c'est un livre qui secoue, hein. On peut pas lire tout d'un bloc parce que sinon, ben, on a besoin d'un Lexomil, je pense, et quelques séances de thérapie après. Donc, Itzhak Katzenelson, c'était un poète et dramaturge juif qui était né en 1886 à côté de Minsk. Il a été mort par gazage le 1er mai 44 à Auschwitz. Donc en fait, quand la Pologne est envahie par l'Allemagne en 39, lui, il fuit avec sa famille sur Varsovie, pensant que ce serait une très bonne idée. Voilà. Il est évidemment rattrapé par le front. Ils sont parqués dans un ghetto pendant 3 ans.
Il y a du flair, hein.
À l'intérieur, donc, de...
C'est un peu le Louis XIV de l'époque.
Je croyais que tu faisais un truc moche, genre le flair, la tête.
Non, non, pas du tout. D'accord. Non, certainement pas.
Non, non, en plus, j'aurais pu apporter la touche d'humour. Hein.
J'ai repris une blague d'Héloïse, qui l'a pas assez dit proche de son micro.
Mais vu qu'elle est morte de rire.
Ouais. Peut-être qu'elle avait une arrière-pensée.
Non, donc, dans le ghetto de Varsovie, il essaye de créer une école juive clandestine. Il voit sa femme et ses deux filles être déportées à Treblinka, où elles sont gazées. Enfin, voilà, ambiance pour voilà, c'est ça. Donc, et il commence à écrire. Donc, il écrit d'habitude en hébreu ou en yiddish. Là, il va l'écrire ce livre en yiddish, un peu comme pour rendre hommage en fait à tout son peuple. Et il va être ensuite donc du ghetto de Varsovie. Il va être amené au ghetto VIP, enfin pas au ghetto, au camp de concentration VIP, donc de Vittel, sachant qu'à Vittel, ils accueillaient donc soit des gens un peu des intellectuels juifs, ou alors ceux qui possédaient des passeports étrangers, américains, anglais, et ils s'en servaient un peu les nazis de monnaie d'échange. En fait, voilà.
D'accord.
Voilà. Donc lui, il était là, mais malgré tout, même s'il était, j'allais dire, dans un camp peut-être un peu moins dangereux, il a rédigé le chant du peuple juif assassiné, en notant en fait tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il ressentait. Voilà, donc de 1939 jusqu'au 1er mai 1944, jour où lui et son fils Ziv sont déportés et gazés à leur arrivée à Auschwitz. Son livre, évidemment, quand il l'a écrit, il n'a pas pu trouver un éditeur, appeler les maisons d'édition pour dire « Hey, les mecs, vous me publiez ?» Non, il a caché donc tous les manuscrits.
Il nous a dit qu'il était mort en 44.
Ouais, 1er mai, ouais.
Donc, il n'a pas pu trouver un éditeur.
Il n'a pas pu trouver un éditeur. Donc, du coup, il a caché donc tous ses manuscrits dans des récipients qu'il a enterré sous un arbre, et ces manuscrits en fait donc ont pu être récupérés après la guerre. Il y a eu des copies qui ont été cachées dans des mallettes envoyées en Israël, et grâce à ça aujourd'hui j'ai pu lire Le chant du peuple juif assassiné.
C'est fou cette histoire.
C'est assez incroyable. C'est une très très longue poésie qui le livre est en deux parties. La première partie, c'est vraiment la poésie pure, et la deuxième partie, c'est une analyse donc par la personne qui a traduit, donc qui s'appelle Rachel Hertel, pardon, qui le présente, et c'est traduit par Batia Baum. Et voilà, donc c'est il met en poésie, en fait, il raconte ce qu'il voit en poésie.
Tu peux nous lire un passage?
Oui, plutôt gay ou plutôt non, je déconne.
Non, c'est...
bon, il faut bien écouter.
Dire que tu nous parlais de la soupe aux choux pendant la pause musicale.
Oui, c'est vrai. Non, je vais vous parler d'un idiot à Paris, de Fallet, qui est excellent. Je ne sais pas, j'ai noté tellement de pages.
Non, mais c'est pour qu'on se rende compte plus du style que du fond, parce que je pense que le fond, on a bien compris.
Te souviens-tu de la pire cruauté, la pire horreur, la pire inhumanité en ce monde? Je sais que tu t'en souviens. Tu as en emporté le souvenir avec toi dans toutes les éternités. Toi et mes fils, vous souviendrez à jamais du meurtre de votre peuple et du prix à payer. Moi aussi, j'en fais le vœu, mais j'ai peur que n'en vienne l'heure, j'ai peur d'oublier. y a des petits moments aussi, avec tout ce qui se passe même chez nous, le fait qu'ils disent voilà, que les gens risquent d'oublier ce qui s'est passé, ça... Voilà. Les non-juifs le croyaient, mais nous, les futures victimes, nous ne le croyons pas. Pas un juif ne pouvait croire qu'une nation abjecte égorgerait le peuple juif tout entier. Nous ne le croyons pas à cause de l'image divine que nous portions en nous. Nous ne pouvions pas le croire parce que nous sommes des êtres humains. Mais c'est pesant, mais d'un autre côté, c'est écrit, c'est beau.
C'est beau.
D'un autre côté, tu as vraiment envie de lire jusqu'au bout. Et quand tu arrives à la fin, tu as les os, la chair. Enfin, il y a tout qui est glacé parce que tu sais que la dernière phrase que tu fais... J'en ai larmes aux yeux, rien que d'en parler. Rien que la dernière phrase que tu lis, ça veut dire que le lendemain, il est déporté à Auschwitz et qu'il est mort. Enfin, c'est poignant, et en même temps le fait que ce soit écrit en poésie, il juge, à des moments il parle au train, il dit là tu en as pris 10 000, pourquoi aujourd'hui tu en prends 15 000, il parle au train en lui disant mais raconte-nous qu'est-ce qui se passe, et voilà, comme s'il voulait pas y croire, il garde espoir, il arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que voilà on s'en prend autant à eux, voilà, donc c'est très beau. Mais c'est très, très lourd à...
Dur.
Ouais.
Bah après, du coup, c'est vrai que tu racontais aussi le contexte. C'est une chance que ce texte nous soit parvenu. Ah, c'est vraiment lui faire honneur à ce monsieur, du coup, de
voilà, sachant qu'il a écrit plein de petits récits en yiddish, mais qui n'ont pas... je pense qu'ils n'ont même pas publié en France. Là, c'est vraiment un recueil hyper intéressant. Voilà.
C'est importantissime, ce genre de livre pour la mémoire collective.
Ouais.
Alors, ce sont des livres que je pourrais jamais lire.
Ah, mais il te faut passer. Voilà, moi justement, quand je l'ai lu,
faut que je passe une semaine de thérapie chez Popo, qu'elle m'explique comment elle fait selon la vie.
Pour arriver à.
Pour y arriver.
Voilà, je lisais Un idiot à Paris de Fallais en même temps, qui ressemble au livre qu'Éloïse nous a présenté. Qui a écrit La soupe aux choux.
Voilà.
Voilà, parce que c'était distrayant, 14 ans à la limite. Mais c'était vraiment important de souffler parce que moralement. Ça pesait trop lourd.
Et oui, oui. Ouais. Rappelle-nous.
Alors, c'est Le chant du peuple juif assassiné. Et c'est édité aux éditions Zulma dans un tout petit livre en taille, mais fort en mots.
La couverture fait mal aux yeux. Hein.
Elle fait très mal aux yeux parce qu'elle est trouble. Mais quand elle tu liras, tu auras des larmes qui te troubleront les yeux.
Je pense
aussi,
que c'est une erreur d'impression aussi. Ouais. Je pense voilà.
Parce que d'après Zulma,
c'est un exemplaire unique. Là.
D'accord. Ah, mais c'est ton exemplaire. D'accord.
Il faudrait appeler Elga. Qu'elle nous donne son avis sur
la couverture.
Elle
aimerait cette couverture.
Oui. Allez, on finit en beauté cette année avec Héloïse.
Enfin, en beauté, oui, en beauté, effectivement. Parce que moi, j'ai un livre beaucoup plus léger, même si ça parle de sujets assez sérieux, mais c'est quand même plus léger, on va dire.
C'est difficile de faire pire que le mien, niveau gravité.
C'est vrai que, bon, il y avait Popo aussi qui était pas mal sur ce thème.
Le livre en lui-même était pas joyeux. C'était par les mots d'enfant, tu vois, c'était
Donc, bref, moi, mon livre s'appelle « Il est temps de suivre un régime et d'apprendre à voler ». C'est un livre de Michel Bélanger, c'est aux éditions du Rouergue. Alors quand j'ai reçu ce livre, je me suis dit, oh là là, encore un titre à rallonge, rigolo, ça va être un livre...
Ouais, c'est un peu la mode, ça. Hein.
Voilà,
j'aime pas trop non plus, ça commence à me...
Genre, ça me saoule un peu,
je
me suis dit, bon, ça va être très léger, voilà, je sais pas ce que je vais en penser. Après, je me suis dit, bon, c'est au Rouergue, tu essayes de le lire. Voilà. Donc je me suis trompée, effectivement c'est léger, mais c'est pas trop léger. Voilà, c'est toute la différence, il y a une certaine subtilité.
Pour s'envoler, il fallait que ce soit léger.
Voilà, merci. Donc c'est typiquement le roman intelligent qui fait du bien et qu'on peut prendre en vacances sans souci, sur la plage, en montagne, c'est sur un bateau. Ça fait du bien et c'est chouette et on apprend des choses. Donc c'est l'histoire d'Adam qui est professeur et qui à ses heures perdues en fait a décidé d'être un écrivain public dans son village en Roumanie. Donc il écrit toutes sortes de choses pour ses clients. Donc ça peut être des lettres d'insultes, d'amour, des testaments, des poèmes, des lettres de motivation. Il écrit tout ce qu'on lui demande. Il accepte donc d'écrire, pas contre de l'argent, mais contre un système. Il y a un système de troc en fait qui s'est installé. Donc ça peut être des légumes, des chaussures, un certain service, etc. Donc c'est toute une petite communauté qui a autour de lui, qui lui demande d'écrire, et en contrepartie il y a des services. Et donc du coup on suit à travers le personnage d'Adam une foule d'autres personnages très touchants auxquels il propose ses services et il résout en fait leurs problèmes. Donc chacun a ses petits bonheurs quotidiens, chacun a ses soucis, et on suit tout le monde en fonction de leur envie, en fonction de leurs demandes, etc. Les lettres sont écrites entre les chapitres, donc on voit aussi le résultat du travail d'Adam. Donc, par exemple, il y a Corneliu, qui est un prodige de mécanique et qui rêve de s'installer en France pour exercer son métier. Il y a Victor, qui est l'ancien patron d'un magasin de chaussures, qui réécrit son testament au gré de ses repas de famille et de comment s'y sont comportés ses enfants. Il y a Drago, qui vit avec Adam en colocation, qui est un ancien SDF et qui vend du poids aux gens, c'est-à-dire qu'il a une balance sur la place. Les gens viennent se peser, ils leur donnent leur poids. Parce qu'à l'époque, en fait, tout le monde ne pouvait pas se payer une balance électrique chez soi.
Mmh, c'est bon.
Donc
ça.
C'était un beau métier disparu.
Ah, dommage.
Et oui, c'est dommage. Je te vois bien faire
balance,
ça devant la cathédrale,
moi.
À la sortie
de
la messe.
Moi. Mmh. Sortie de la messe, je ne sais pas, mais devant la cathédrale, pourquoi pas. Ouais.
L'hostie, ça ne fait pas grossir, ça. Mmh. Et donc, il y a Natacha aussi, qui est une petite Rome. Donc voilà, à travers tous ces personnages et ces différentes histoires, on découvre un portrait très touchant et tout en contraste et en contradiction de la Roumanie, qui est donc un pays qui vit encore avec le poids de son passé et qui ne sait pas trop encore comment imaginer son futur, enfin à l'époque où elle situe l'action, c'est-à-dire les années 80-90. Donc c'est vraiment intéressant, c'est touchant et c'est souvent très drôle, surtout, voilà. Et donc, c'est une auteure française, mais j'ai l'impression qu'elle connaît quand même bien ce pays, parce qu'on sent la chaleur des gens, on sent la beauté des paysages, on sent, comme je vous disais, le poids du passé. Donc c'est vraiment chouette, intéressant et léger.
Parfait, Héloïse. Parfait pour cette dernière chronique de l'année. Il nous reste quelques minutes, c'est bientôt l'été, c'est bientôt les vacances. Eh bien, en vacances, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on achète des livres pour pouvoir les lire au bord de la piscine ou de la plage ou de la montagne ou où vous voulez d'ailleurs. Ça va claquer. Mais pour vous donner des pistes, on va vous rappeler les livres qu'on a beaucoup aimés dans cette émission durant toute l'année. Comme ça, vous aurez un choix entre tous les chroniqueurs. Avec Popo, je ne sais pas si tu t'en souviens un peu des livres.
J'ai travaillé.
Voilà. Alors il faut savoir que ça fait une heure que Valérie est sur Internet, sur son téléphone, ou en train de passer toutes les émissions de pas le bout de la lorgnette pour essayer de se rappeler d'un livre, mais elle va y arriver.
Mais j'en aime trop, c'est...
Oh, mais tu fais un choix de deux, trois, quatre livres.
Mon Apolline, elle a fait
voilà,
son
rendez-vous. Popo, elle a préparé, donc elle va pouvoir parler en premier. Alors dis-nous.
Alors moi, mais c'est... pas forcément très estival, mais il y a eu Butcher's Crossing, qui était une histoire de chasse aux bisons, qui a été absolument ahurissante. Même maintenant, quand j'y pense, j'ai l'impression de le voir en image dans ma tête. C'est incroyable. C'était les descriptions.
C'est un livre que tu avais toi-même choisi de ta bibliothèque, non ?
Non, c'est Louise qui m'en
a fait Pearl Harbor.
Très bien, oui, parce qu'on n'a pas le droit de ressortir de ces livres, hein, on est bien d'accord.
Et on a le droit de ressortir des tiens, parce que l'autre coup de cœur, c'est vraiment Tendre Jeudi. Parce que, et là, pour le coup, pour l'été, c'est super. C'est vraiment impeccable en plus, je pense. Autant Butcher's Crossing, c'est peut-être un peu, c'est pas très détente et cool. Autant Tendre Jeudi, vous allez être bien là au bord de l'eau avec votre petit bouquin sympa. Non. Allez-y, lancez-vous.
D'accord.
C'est pour ça que tu vas bientôt à Sainte-Eulalie chasser le bison. Faites attention.
Ouais, c'est Valérie qui va montrer comment on fait.
Oui. Cool, mais c'est là. Bien parce que je voulais à tout prix acheter ce premier livre sur la chasse aux bisons, comme ça maintenant je me rappelle du nom. Héloïse, qu'est-ce que tu nous conseilles? Allez, deux, trois livres pour l'été.
Moi je dirais L'homme qui savait la langue des serpents. Ça, c'est vraiment, c'est pas récent, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette année.
Allez, sors-nous ton Cécile Coulon.
Cécile Coulon, bah oui, ma Cécile à moi. Après,
Trois montagnes, les trois. Non, comment il s'appelle?
Trois saisons d'orage ou le cœur du pélican.
D'accord,
de Cécile Coulon. Après, je viens de lire quelque chose. On n'en a pas parlé encore, mais je viens de lire quelque chose de magnifique. Une saga qui à la base était pour les ados, mais qui peut être absolument pour tout le monde. Il y a trois tomes pour l'instant. Ça s'appelle Les fiancés de l'hiver et c'est absolument magique. J'ai lu les trois. Ils font 500 pages.
Je viens de lire le premier et c'était assez très chouette. Et même pour ado, ça me semblait. Enfin, pour ado lecteur. Hein,
Tout à fait. J'adore.
J'ai beaucoup aimé le premier aussi. Je conseille pareil.
Et c'est de Christelle Dabos chez Gallimard.
Merci Héloïse. On va laisser encore un peu de temps à Valérie qui n'est pas prête. Mais moi, évidemment, le livre que je vous ai présenté aujourd'hui, hein, Jésus et Tito de Velibor Kolić, qui est exceptionnel. J'avais beaucoup aimé Jean-Michel R, c'est ça ? C'est Jean-Michel son prénom, Sherlock Holmes contre Arsène Lupin.
Non.
Non. Toi, c'était Attends. Celui
ah,
du...
Ah, mais si, non, mais t'as raison, oui. C'était le mystère Sherlock, l'auteur le mystère, Montpellier.
Hein. Les jeunes voilà. Qui se faisaient tuer dans un
excellent,
hôtel
très drôle, jardin. Troisième degré. Et aussi Tropique de la violence. De, tu me rappelleras son nom parce que...
Natacha Payana.
Natacha Payana. En fait, c'est le prix féminin des lycéens, vous ne pouvez pas ne pas passer à côté.
Bon, bah, Valérie, rien ne lui a plu cette année.
Si, parce qu'il y en a un qui m'a particulièrement plu, mais je ne sais pas... Pas, alors, je pense que c'était pour la rentrée littéraire de cette année, donc j'ai le droit de le dire.
Ah, oui.
Marcus Malta, un garçon, le garçon.
Oui, le garçon, un garçon.
Voilà,
ah, oui.
Que j'ai vraiment. Voilà,
d'excellentes critiques depuis que tu as parlé de ce livre. On voit que les gens t'ont écouté.
Du reste, il y a eu le prix féminin depuis.
Mais il y a eu aussi L'Étoile Absinthe que tu avais beaucoup aimé
aussi,
chez Zulma.
Oui, oui, je l'avais oublié. Mais y a, en fait, il y en a beaucoup qui me plaisent. Après, en. Récemment, j'ai repensé parce qu'on l'a offert la suite des Chroniques Vigneronnes, mais c'était dans le avec le Comté.
Chronique du Comté.
C'est pas Chronique du Comté, je sais plus le nom.
La Fruitière.
La Fruitière, voilà. Chronique des Fruitières. Voilà, une BD qui se passait dans la fabrique du Comté. Et Ilska, mais je crois que c'était la saison dernière, tu vois, il m'est revenu.
Oui, non, mais c'est bien, on peut en parler. Un roman islandais.
Extraordinaire, roman islandais aussi. Et voilà, il y en a trop qui sont extraordinaires. Il suffit juste de pousser la porte chez Héloïse et tu as envie de tout lire.
C'est
donc,
ça. Il y a le dernier livre aussi de Christine Boutin.
Ah, je
l'ai pas vendu qu'à 17 exemplaires pour l'instant.
Ah, oui.
Conseil de coup de cœur de l'été.
On en a parlé.
Coup de cœur de l'été.
Ah oui, j'aurais pas envie qu'on finisse sur ça, tu vois.
Les
hauts d'en bas ou les bas d'en haut, c'était quoi déjà c'est chez Zulma.
Les bas d'en haut.
Les hauts du bas. Léo Dubin, oh là, je me rappelle.
J'avoue que je ne sais plus.
Il y avait un beau livre aussi, Pauline, que tu avais de photographie.
Vétérinaire.
Non, vétérinaire, c'était moi, mais c'est. Non, c'est. Pour l'été, bon, voir des accouchements de poulains, c'est pas obligatoirement ce qu'il faut. Non, d'un ancien asile qui avait fermé.
Ah, c'était des lettres.
Des lettres avec des photographies de cet endroit.
Ah oui,
ça
celui-là,
marqué.
Il était assez bouleversant, assez étonnant, oui. Oui, oui, c'était des archives d'un asile italien, je crois. Assez incroyable, je ne me rappelle plus du tout du titre. Non plus.
Il va falloir écouter toutes les émissions.
Ouais.
Et Alabama Song, non pas Alabama Song, ça c'est les Doors.
C'est les Doors.
Alabama Song, c'est un roman aussi, mais on n'en a pas parlé
non,
cette année.
Non, mais c'est pas ça. Il y avait un truc avec Mister Alabama.
Oui, voilà, d'accord.
C'était génial aussi, le truc de la pêche au moule.
Ok, très bien.
C'est la rentrée d'hiver.
Si nos auditeurs arrivent à se retrouver dans nos conseils.
La pêche au moule en Alabama.
Oui, mais c'est extraordinaire.
Bon, mais on se retrouve en septembre.
Ben, merci à tous ceux qui nous écoutent.
Allez, merci
à
tous. Et comme dirait notre ami,
au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On me voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.